Les mille et une nuits, tome 7, chapitre 1. Histoire d'Ali Khodja, marchand de Bagdad. Sous le règne du calife Haroun al-Rachid, dit la sultane Scheherazade, il y avait à Bagdad un marchand nommé Ali Khodja, qui n'était ni des plus riches, ni aussi du dernier ordre, lequel demeurait dans sa maison paternelle, sans femme et sans enfant. Dans le temps que, libre de ses actions, il vivait content de ce que son négoce lui produisait, il eut 3 jours de suite un songe, dans lequel un vieillard vénérable lui apparut avec un regard sévère qui le réprimandait de ce qu'il ne s'était pas encore acquitté du pèlerinage de la Mecque. Ce songe troubla Ali Khodja et le mit dans un grand embarras. Comme bon musulman, il n'ignorait pas l'obligation où il était de faire ce pèlerinage. Mais comme il était chargé d'une maison, de meubles et d'une boutique, il avait toujours cru que c'était des motifs assez puissants pour s'en dispenser, en tâchant d'y suppléer par des aumônes et par d'autres bonnes œuvres. Mais depuis le songe, sa conscience le pressait si vivement que la crainte qu'il ne lui arrivât quelque malheur le fit résoudre de ne pas différer davantage à s'en acquitter. Pour se mettre en état d'y satisfaire dans l'année qui courait, Ali Khodja commença par la vente de ses meubles. Il vendit ensuite sa boutique et la plus grande partie des marchandises dont elle était garnie, en réservant celles qui pouvaient être de débit à la Mecque. Et pour ce qui est de la maison, il trouva un locataire à qui il en fit un bail. Les choses ainsi disposées, il se trouva prêt à partir dans le temps que la caravane de Bagdad pour la Mecque se mettrait en chemin. La seule chose qui lui restait à faire était de mettre en sûreté une somme de 1000 pièces d'or qu'il eut embarrassée dans le pèlerinage, après avoir mis à part l'argent qu'il jugea à propos d'emporter avec lui pour sa dépense et pour d'autres besoins. Ali Khodja choisit un vase d'une capacité convenable. Il y mit les 1000 pièces d'or et il acheva de le remplir d'olives. Après avoir bien bouché le vase, il le porte chez un marchand de ses amis. Il lui dit « Mon frère, vous n'ignorez pas que dans peu de jours je pars comme pèlerin de la Mecque avec la caravane. Je vous demande en grâce de vouloir bien vous charger d'un vase d'olives que voici et de me le conserver jusqu'à mon retour. » Le marchand lui dit obligeamment « Tenez, voilà la clé de mon magasin. Portez-y vous-même votre vase et mettez-le où il vous plaira. Je vous promets que vous l'y retrouverez. » Le jour du départ de la caravane de Bagdad arrivé, Ali Khodja, avec un chameau chargé des marchandises dont il avait fait choix et qui lui servit de monture dans le chemin, s'y joignit. Et il arriva heureusement à la Mecque. Il y visita avec tous les autres pèlerins le temple si célèbre et si fréquenté chaque année par toutes les nations musulmanes qui abordent tous les endroits de la terre où elles sont répandues, en observant très religieusement les cérémonies qui leur sont prescrites. Quand il se fut acquitté des devoirs de son pèlerinage, il exposa les marchandises qu'il avait apportées pour les vendre et pour les échanger. Deux marchands qui passaient et qui virent les marchandises d'Ali Khodja les trouvèrent aussi belles qu'ils s'arrêtèrent pour les considérer, quoiqu'ils n'en eussent pas besoin. Quand ils eurent satisfait leur curiosité, l'un dit à l'autre en se retirant, « Si ce marchand savait le gain qu'il ferait au Caire sur ces marchandises, il les y porterait plutôt que de les vendre ici où elles sont à bon marché. » Ali Khodja entendit ces paroles. Et comme il avait entendu parler 1000 fois des beautés de l'Égypte, il résolut sur le champ de profiter de l'occasion et d'en faire le voyage. Ainsi, après avoir rempacté et remballé ses marchandises, au lieu de retourner à Bagdad, il prit le chemin de l'Égypte en se joignant à la caravane du Caire. Quand il fut arrivé au Caire, il n'eut pas lieu de se repentir du parti qu'il avait pris. Il y trouva si bien son compte qu'en très peu de jours il eut achevé de vendre toutes ses marchandises avec un avantage beaucoup plus grand qu'il n'avait espéré. Il en acheta d'autres dans le dessein de passer à Damas. Et en attendant la commodité d'une caravane qui devait partir dans 6 semaines, il ne se contenta pas de voir tout ce qui était digne de sa curiosité dans le Caire. Il alla aussi admirer les pyramides. Il remonta le Nil jusqu'à une certaine distance et il vit les villes les plus célèbres situées sur l'un et l'autre bord. Dans le voyage de Damas, comme le chemin de la caravane était de passer par Jérusalem, notre marchand de Bagdad profita de l'occasion pour visiter le temple, regardé par tous les musulmans comme le plus saint, après celui de la Mecque, d'où cette ville prend le titre de sainte cité. Ali Khodja trouva la ville de Damas un lieu si délicieux, par l'abondance de ses eaux, par ses prairies et par ses jardins enchantés, que tout ce qu'il avait lu de ses agréments dans nos histoires lui parut beaucoup au-dessus de la vérité, et qu'il y fit un long séjour. Comme néanmoins il n'oubliait pas qu'il était de Bagdad, il en prit enfin le chemin, et il arriva à Alep, où il fit encore quelques séjours. Et de là, après avoir passé l'Euphrate, il prit le chemin de Moussoul, dans l'intention d'abréger son retour en descendant le Tigre. Mais quand Ali Khodja fut arrivé à Moussoul, des marchands de Perse avec lesquels il était venu d'Alep, et avec qui il avait contracté une grande amitié, avaient pris un si grand ascendant sur son esprit, par leurs honnêtetés et par leurs entretiens agréables, qu'ils n'eurent pas de peine à lui persuader de ne pas abandonner leur compagnie jusqu'à Shiraz, d'où il lui serait aisé de retourner à Bagdad avec un gain considérable. Ils le menèrent par les villes de Sultani, de Rey, de Koham, de Kashan, d'Ispahan et de là à Shiraz, d'où il eut encore la complaisance de les accompagner aux Indes et de revenir à Shiraz avec eux. De la sorte, en comptant le séjour qu'il avait fait dans chaque ville, il y avait bientôt 7 ans qu'Ali Khodja était parti de Bagdad, quand enfin il résolut d'en prendre le chemin. Et jusqu'alors, l'ami auquel il avait confié le vase d'olive avant son départ pour le lui garder, n'avait songé ni à lui ni au vase. Dans le temps qu'il était en chemin avec une caravane partie de Shiraz, un soir que ce marchand son ami soupait en famille, on vint à parler d'olive, et sa femme témoigna quelque désir d'en manger, en disant qu'il y avait longtemps qu'on en avait vu dans la maison. « À propos d'olive, dit le mari, vous me faites souvenir qu'Ali Khodja m'en laissa un vase en allant à la Mecque, il y a 7 ans, qu'il mit lui-même dans mon magasin, pour le reprendre à son retour. Mais où est Ali Khodja depuis qu'il est parti? Il est vrai qu'au retour de la caravane, quelqu'un me dit qu'il avait passé en Égypte. Il faut qu'il y soit mort, puisqu'il n'est pas revenu depuis tant d'années. Nous pouvons désormais manger les olives si elles sont bonnes. Qu'on me donne un plat et de la lumière, j'en irai prendre, et nous en goûterons. Mon mari, reprit la femme, gardez-vous bien, au nom de Dieu, de commettre une action si noire. Vous savez que rien n'est plus sacré qu'un dépôt. Il y a 7 ans, dites-vous, qu'Ali Khodja est allé à la Mecque et il n'est pas revenu. Mais l'on vous a dit qu'il était allé en Égypte, et d'Égypte, que savez-vous s'il n'est pas allé plus loin? Il suffit que vous n'ayez pas de nouvelles de sa mort. Il peut revenir demain, après-demain. Quelle infamie ne serait-ce pas pour vous et pour votre famille s'il revient et que vous ne lui rendissiez pas son vase dans le même état et tel qui vous l'a confié. Je vous déclare que je n'ai pas envie de ces olives et que je n'en mangerai pas. Si j'en ai parlé, je ne l'ai fait que par manière d'entretien. De plus, croyez-vous qu'après tant de temps, les olives soient encore bonnes? Elles sont pourries et gâtées. Et si Ali Khodja revient, comme un pressentiment me le dit, et qu'il s'aperçoive que vous y avez touché, quel jugement fera-t-il de votre amitié et de votre fidélité? Abandonnez votre dessein, je vous en conjure. La femme ne tint un si long discours à son mari que parce qu'elle lisait son obstination sur son visage. En effet, il n'écouta pas de si bons conseils. Il se leva et alla à son magasin avec de la lumière et un plat. « Alors, souvenez-vous au moins, lui dit sa femme, que je ne prends pas de part à ce que vous allez faire, afin que vous ne m'en attribuiez pas la faute si vous arrive de vous en repentir. » Le marchand eut encore les oreilles fermées, et il persista dans son dessein. Quand il est dans son magasin, il prend le vase, il le découvre et il voit les olives toutes pourries. Pour s'éclaircir si le dessous était aussi gâté que le dessus, il en verse dans le plat et, de la secousse avec laquelle il les versa, quelques pièces d'or y tombèrent avec bruit. À la vue de ces pièces, le marchand, naturellement avide et attentif, regarde dans le vase et aperçoit qu'il avait versé presque toutes les olives dans le plat et que le reste était tout or en belle monnaie. Il remet dans le vase ce qu'il avait versé d'olive, il le recouvre et il revient. « Ma femme, dit-il en rentrant, vous aviez raison. Les olives sont pourries et j'ai rebouché le vase de manière qu'Ali Khodja ne s'en apercevra pas que j'y ai touché, si jamais il revient. » « Vous eussiez mieux fait de me croire, reprit la femme, et de n'y pas toucher. Dieu veuille qu'il n'en arrive aucun mal. » Le marchand fut aussi peu touché de ces dernières paroles de sa femme que de la remontrance qu'elle lui avait faite. Il passa la nuit presque entière à songer aux moyens de s'approprier de l'or d'Ali Khodja et à faire en sorte qu'il lui demeurât au cas qu'il revînt et qu'il lui demandât le vase. Le lendemain de grand matin, il va acheter des olives de l'année. Il revient, il jette la vieille du vase d'Ali Khodja. Il en prend l'or, il le met en sûreté, et après l'avoir rempli des olives qu'il venait d'acheter, Il le recouvre du même couvercle et il le remet à la même place où Ali Khodja l'avait mis. Environ un mois après que le marchand eut commis une action si lâche et qui devait lui coûter cher, Ali Khodja arriva à Bagdad de son long voyage. Comme il avait loué sa maison avant son départ, il mit pied à terre dans un khan où il prit un logement, en attendant qu'il eût signifié son arrivée à son locataire et que le locataire se fût pourvu ailleurs d'un logement. Le lendemain, Ali Khodja alla trouver le marchand son ami, qui le reçut en l'embrassant et en lui témoignant la joie qu'il avait de son retour, après une absence de tant d'années, qui, disait-il, avait commencé de lui faire perdre l'espérance de jamais le revoir. Après les compliments de part et d'autre, accoutumés dans une semblable rencontre, Ali Khodja pria le marchand de bien vouloir lui rendre le vase d'olive qu'il avait confié à sa garde et de l'excuser de la liberté qu'il avait prise de l'en embarrasser. « Ali Khodja, mon cher ami, reprit le marchand, vous avez tort de me faire des excuses. Je n'étais nullement embarrassé de votre vase. Et dans une pareille occasion, j'en eus usé avec vous de la même manière que vous en avez usé avec moi. Tenez, voilà la clé de mon magasin. Allez le prendre, vous le trouverez à la même place où vous l'avez mis. » Ali Khodja alla au magasin du marchand, il en apporta son vase, et après lui avoir rendu la clé, l'avoir bien remercié du plaisir qu'il en avait reçu, il retourne au khan où il avait pris logement. Il découvre le vase, et en y mettant la main à la hauteur où les 1000 pièces d'or qu'il y avait cachées devaient être, il est dans une grande surprise de ne les pas y trouver. Il crut se tromper, et pour se tirer hors de peine promptement, il prend une partie des plats et autres vases de sa cuisine de voyage, et il verse tout le vase d'olive sans y trouver une seule pièce d'or. Il demeura immobile d'étonnement, et en élevant les mains et les yeux au ciel. « Est-il possible, s'écria-t-il, qu'un homme que je regardais comme mon bon ami m'ait fait une infidélité si insigne ?» Ali Khodja, sensiblement alarmé par la crainte d'avoir fait une perte si considérable, revient chez le marchand. « Mon ami, lui dit-il, ne soyez pas surpris de ce que je reviens sur mes pas. J'avoue que j'ai reconnu le vase d'olive que j'ai pris dans votre magasin pour celui que j'y avais mis. Mais avec les olives, j'y avais mis 1000 pièces d'or que je n'y trouve pas. Peut-être en avez-vous eu besoin et vous en êtes servi pour votre négoce. Si cela est, elles sont à votre service. Je vous prie seulement de me tirer hors de peine et de me donner une reconnaissance, après quoi vous me les rendrez à votre commodité. » Le marchand, qui s'était attendu qu'Ali Khodja viendrait lui faire ce compliment, avait médité aussi ce qu'il devait lui répondre. « Ali Khodja, mon ami, dit-il, quand vous m'avez apporté votre vase d'olive, y ai-je touché? Ne vous ai-je pas donné la clé de mon magasin? Et ne l'avez-vous pas retrouvée à la même place où vous l'aviez mis, dans le même état et couvert de même? Si vous y aviez mis de l'or, vous devez l'y avoir trouvé. Vous m'avez dit qu'il y avait des olives, je l'ai cru. Voilà tout ce que j'en sais. Vous m'en croirez si vous voulez, mais je n'y ai pas touché. » Ali Khodja prit toutes les voies de douceur pour faire en sorte que le marchand se rendît justice à lui-même. « Je n'aime, dit-il, que la paix, et je serais fâché d'en venir à des extrémités qui ne vous feraient pas honneur dans le monde et dont je ne me servirais qu'avec un regret extrême. Songez que des marchands comme nous doivent abandonner tout intérêt pour conserver leur bonne réputation. Encore une fois, je serais au désespoir si votre opiniâtreté m'obligeait de prendre les voies de la justice, moi qui ai toujours mieux aimé perdre quelque chose de mon droit que d'y recourir. » Ali Khodja, reprit le marchand, vous convenez que vous avez mis chez moi un vase d'olive en dépôt. Vous l'avez repris, vous l'avez emporté, et vous venez me demander 1000 pièces d'or. M'avez-vous dit qu'elles fussent dans le vase? J'ignore même qu'il y ait des olives. Vous ne me les avez pas montrées. Je m'étonne que vous ne me demandiez des perles ou des diamants plutôt que de l'or. Croyez-moi, retirez-vous, et ne faites pas assembler le monde devant ma boutique. » Quelques-uns s'y étaient déjà arrêtés, et ces dernières paroles du marchand, prononcé du ton d'un homme qui sortait hors des bornes de la modération, firent que non seulement il s'y en arrêta un plus grand nombre, mais même que les marchands voisins sortirent de leur boutique et vinrent pour prendre connaissance de la dispute qui était entre lui et Ali Khodja et tâcher de les mettre d'accord. Quand Ali Khodja leur eut exposé le sujet, les plus apparents demandèrent au marchand ce qu'il avait à répondre. Le marchand avoua qu'il avait gardé le vase d'Ali Khodja dans son magasin, mais il nia qu'il y eût touché, et il fit serment qu'il ne savait qu'il eût des olives que parce qu'Ali Khodja le lui avait dit, et qu'il les prenait tous à témoin de l'affront et de l'insulte qu'il venait lui faire jusqu'à chez lui. « Vous vous l'attirez vous-même, l'affront, dit alors Ali Khodja en prenant le marchand par le bras. Mais puisque vous en usez si méchamment, je vous cite à la loi de Dieu. Voyons si vous aurez le front de dire la même chose devant le cadi. » À cette sommation à laquelle tout bon musulman doit obéir, à moins de se rendre rebelle à la religion, le marchand n'eut pas la hardiesse de faire résistance. « Allons, dit-il, si c'est ce que je vous demande, nous verrons qui a tort de vous ou de moi. » Ali Khodja amena le marchand devant le tribunal du cadi, où il l'accusa de lui avoir volé un dépôt de 1000 pièces d'or, en exposant le fait de la manière que nous le venons de voir. Le cadi lui demanda s'il avait des témoins. Il répondit que c'était une précaution qu'il n'avait pas prise, parce qu'il avait cru que celui à qui il confiait son dépôt était son ami et que jusqu'alors, il l'avait reconnu pour un homme. Le marchand ne dit autre chose pour sa défense que ce qu'il avait déjà dit à Ali Khodja et en présence de ses voisins. Et il acheva en disant qu'il était prêt à affirmer par serment non seulement qu'il était faux qu'il eût pris la 1000 pièces d'or, comme on l'en accusait, mais même qu'il n'en avait aucune connaissance. Le cadi exigea de lui le serment, après quoi il le renvoya absous. Ali Khodja, extrêmement mortifié de se voir condamné à une perte si considérable, protesta contre le jugement en déclarant au cadi qu'il emporterait sa plainte au calife Haroun al-Rachid qui lui ferait justice. Mais le cadi ne s'étonna point de la protestation. Il la regarda comme l'effet du ressentiment ordinaire à tous ceux qui perdent leur procès, et il crut avoir fait son devoir en renvoyant absous un accusé contre lequel on ne lui avait pas produit de témoin. Pendant que le marchand retournait chez lui en triomphant d'Ali Khodja avec la joie d'avoir ses 1000 pièces d'or à si bon marché, Ali Khodja alla dresser un placet, et dès le lendemain, après avoir pris le temps que le calife devait retourner de la mosquée après la prière du midi, il se mit dans une rue sur le chemin, et dans le temps qu'il passait, il éleva le bras en tenant le placet à la main. Et un officier, chargé de cette fonction, qui marchait devant le calife et qui se détacha de son rang, vint le prendre pour le lui donner. Comme Ali Khodja savait que la coutume du calife Haroun al-Rachid, en rentrant dans son palais, était de lire lui-même le placet qu'on lui présentait de la sorte, il suivit la marche, entra dans le palais, et attendit que l'officier qui avait pris le placet sortît de l'appartement du calife. En sortant, l'officier lui dit que le calife avait lu son placet, lui marqua l'heure à laquelle il lui donnerait audience le lendemain, et après avoir appris de lui la demeure du marchand, il envoya lui signifier de se trouver aussi le lendemain à la même heure. Le soir du même jour, le calife avec le grand vizir Jafar et Misrour, le chef des eunuques, l'un et l'autre déguisés comme lui, alla faire sa tournée dans la ville, comme j'ai déjà fait remarquer à votre majesté, qu'il avait coutume de le faire de temps en temps. En passant par une rue, le calife entendit du bruit. Il pressa le pas, et il arriva à une porte qui donnait entrée dans une cour où 10 ou 12 enfants, qui n'étaient pas encore retirés, jouaient au clair de lune, de quoi il s'aperçut en regardant par une fente. Le calife, curieux de savoir à quel jeu ces enfants jouaient, s'assit sur un banc de pierre qui se trouva à propos à côté de la porte. Et comme il continuait à regarder par la fente, il entendit qu'un des enfants, le plus vif et le plus éveillé de tous, dit aux autres « Jouons au cadi. Je suis le cadi. Amenez-moi Ali Khodja et le marchand qui lui a volé 1000 pièces d'or. » À ces paroles de l'enfant, le calife se souvint du placet qui lui avait été présenté le jour même et qu'il avait lu. Et cela lui fit redoubler son attention pour voir quel serait le succès du jugement. Comme l'affaire d'Ali Khodja et du marchand était nouvelle, et qu'elle faisait grand bruit dans la ville de Bagdad jusque parmi les enfants, les autres enfants acceptèrent la proposition avec joie et convinrent du personnage que chacun devait jouer. Personne ne refusa à celui qui s'était offert de faire le cadi, d'en représenter le rôle. Quand il eut pris séance avec le semblant et la gravité d'un cadi, un autre comme officier compétent du tribunal lui en présenta deux, dont il appela l'un Ali Khodja et l'autre le marchand contre qui Ali Khodja portait sa plainte. Alors, le fin cadi prit la parole, et en interrogeant gravement le fin Ali Khodja. « Ali Khodja, dit-il, que demandez-vous au marchand que voilà ?» Le fin Ali Khodja, après une profonde révérence, informa le fin cadi du fait de point en point. Et en achevant, il conclut en le suppliant à ce qu'il lui plût interposer l'autorité de son jugement pour empêcher qu'il ne fît une perte aussi considérable. Le fin cadi, après avoir écouté le fin Ali Khodja, se tourna du côté du fin marchand et lui demanda pourquoi il ne rendait pas à Ali Khodja la somme qu'il lui demandait. Le fin marchand apporta les mêmes raisons que le véritable avait alléguées devant le cadi de Bagdad, et il demanda de même à affirmer par serment que ce qu'il disait était la vérité. N'allons pas si vite, reprit le fin cadi. Avant que nous en venions à votre serment, je suis bien aise de voir le vase d'Oli. Ali Khodja, ajouta-t-il en s'adressant au fin marchand de ce nom, avez-vous apporté le vase? Comme il eut répondu qu'il ne l'avait pas apporté, allez le prendre, reprit-il, et apportez-le-moi. Le fin Ali Khodja disparaît pour un moment, et en revenant, il feint de poser un vase devant le fin cadi, en disant que c'était le même vase qu'il avait mis chez l'accusé et qu'il avait retiré de chez lui. Pour ne rien omettre de la formalité, le fin cadi demanda au fin marchand s'il le reconnaissait aussi pour le même vase. Et comme le fin marchand eut témoigné par son silence qu'il ne pouvait le nier, il commanda qu'on le découvrît. Le fin Ali Khodja fit semblant d'ôter le couvercle, et le fin cadi, en faisant semblant de regarder dans le vase. « Voilà de belles olives, dit-il, que j'en goûte. » Il fit semblant d'en prendre une et d'en goûter, et il ajouta « Elles sont excellentes !»« Mais, continua le fin cadi, il me semble que les olives gardées pendant ces temps ne devraient pas être si bonnes. Qu'on fasse venir des marchands d'olives et qu'ils voient ce qui en est. » Deux enfants lui furent présentés en qualité de marchands d'olives. « Êtes-vous marchands d'olives ?» leur demanda le fin cadi, comme ils eurent répondu que c'était leur profession. « Dites-moi, reprit-il, savez-vous combien de temps des olives accommodées par des gens qui s'y entendent peuvent se conserver bonnes à manger ?»« Seigneur, répondirent les fins marchands, quelque peine que l'on prenne pour les garder, elles ne valent plus rien la troisième année. Elles n'ont plus ni saveur, ni couleur, elles ne sont bonnes qu'à jeter. » « Si cela est, reprit le fin cadi, voyez le vase que voilà, et dites-moi combien il y a de temps qu'on y a mis les olives qui y sont. » Les marchands fins firent semblant d'examiner les olives et d'en goûter, et témoignèrent au cadi qu'elles étaient récentes et bonnes. « Vous vous trompez, reprit le fin cadi. Voilà Ali Khodja qui dit qu'il les a mises dans le vase il y a 7 ans. « Seigneur, repartit les fins marchands appelés comme experts, ce que nous pouvons assurer, c'est que les olives sont de cette année. » Et nous maintenons que, de tous les marchands de Bagdad, il n'y en a pas un seul qui ne rende le même témoignage que nous. » Le fin marchand, accusé par le fin Ali Khodja, voulut ouvrir la bouche contre le témoignage des marchands experts. Mais le fin cadi ne lui en donna pas le temps. « Tais-toi, dit-il, tu es un voleur, qu'on le pende !» De la sorte, les enfants mirent fin à leur jeu avec une grande joie, en frappant des mains et en se jetant sur le fin criminel comme pour le mener pendre. On ne peut exprimer combien le calife Haroun al-Rachid admira la sagesse et l'esprit de l'enfant qui venait de rendre un jugement si sage sur l'affaire qui devait être plaidée devant lui le lendemain. En cessant de regarder par la fente et en se levant, il demanda à son grand vizir, qui avait été attentif aussi à ce qu'il venait de se passer, s'il avait entendu le jugement que l'enfant venait de rendre et ce qu'il en pensait. « Commandeur des croyants, répondit le grand vizir Jaffar, on ne peut être plus surpris que je le suis d'une si grande sagesse dans un âge si peu avancé. » Mais, reprit le calife, sais-tu une chose, qui est que j'ai à prononcer demain sur la même affaire et que le véritable Ali Khodja m'en a présenté le placé aujourd'hui? Je l'apprends de votre majesté, répond le grand vizir. Crois-tu, reprit encore le calife, que je puisse en rendre un autre jugement que celui que nous venons d'entendre? Si l'affaire est la même, repartit le grand vizir, il ne me paraît pas que votre majesté puisse y procéder d'une autre manière, ni prononcer autrement. Remarque donc bien cette maison, lui dit le calife, et amène-moi demain l'enfant, afin qu'il juge la même affaire en ma présence. Mande aussi au cadi, qui a renvoyé Absou le marchand voleur, de s'y trouver, afin qu'il apprenne son devoir de l'exemple d'un enfant et qu'il se corrige. Je veux aussi que tu prennes le soin de faire avertir Ali Khodja d'apporter son vase d'olives et que 2 marchands d'olives se trouvent à mon audience. » Le calife lui donna cet ordre, en continuant sa tournée, qu'il acheva sans rencontrer autre chose qui mérita son attention. Le lendemain, le grand vizir Jaffar vint à la maison où le calife avait été témoin du jeu des enfants, et il demanda à parler au maître. Au défaut du maître, qui était sorti, on le fit parler à la maîtresse. Il lui demanda si elle avait des enfants. Elle répondit qu'elle en avait 3, et elle les fit venir devant lui. « Mes enfants, leur demanda le grand vizir, qui de vous faisait hier le cadi au soir que vous jouiez ensemble ?» Le plus grand, qui était l'aîné, répondit que c'était lui, et comme il ignorait pourquoi il lui faisait cette demande, il changea de couleur. « Mon fils, lui dit le grand vizir, venez avec moi, le commandeur des croyants veut vous voir. » La mère fut dans une grande alarme quand elle vit que le grand vizir voulait emmener son fils. Elle lui demanda, « Seigneur, est-ce pour enlever mon fils que le commandeur des croyants le demande ?» Le grand vizir la rassura en lui promettant que son fils lui serait renvoyé en moins d'une heure et qu'elle apprendrait à son retour le sujet pourquoi il était appelé, dont elle serait contente. « Si cela est ainsi, seigneur, reprit la mère, permettez-moi qu'auparavant je lui fasse prendre un habit plus propre et qui le rende plus digne de paraître devant le commandeur des croyants. » Elle le lui fit prendre sans perdre de temps. Le grand vizir emmena l'enfant, et il le présenta au calife à l'heure qu'il avait donnée à Ali Khodja et aux marchands pour les entendre. Le calife, qui vit l'enfant un peu interdit, et qui voulut le préparer à ce qu'il attendait de lui. « Venez, mon fils, dit-il, approchez. Est-ce vous que jugiez hier l'affaire d'Ali Khodja et du marchand qui lui a volé son or? Je vous ai vu, et je vous ai entendu. Je suis bien content de vous. » L'enfant ne se déconcerta pas. Il répondit modestement que c'était lui. « Mon fils, reprit le calife, je veux vous faire voir aujourd'hui le véritable Ali Khodja et le véritable marchand. Venez vous asseoir près de moi. » Alors le calife prit l'enfant par la main, monta et s'assit sur son trône, et quand il le fit asseoir près de lui, il demanda où étaient les parties. On les fit avancer, et on les lui nomma pendant qu'ils se prosternaient et qu'ils frappaient de leur front le tapis qui couvrait le trône. Quand ils se furent relevés, le calife leur dit « Plaidez chacun votre cause. L'enfant que voici vous écoutera et vous fera justice. » Et s'il manque en quelque chose, j'y suppléerai. » Ali Khodja et le marchand parlèrent l'un après l'autre, et quand le marchand vint à lui demander à faire le même serment qu'il avait fait dans son premier jugement, l'enfant dit qu'il n'était pas encore temps, et qu'auparavant il était à propos de voir le vase d'olive. À ces paroles, Ali Khodja présenta le vase, le posa au pied du calife et le découvrit. Le calife regarda les olives, et il en prit une dont il goûta. Le vase fut donné à examiner au marchand expert, qui avait été appelé. Et le rapport fut que les olives étaient bonnes et de l'année. L'enfant leur dit qu'Ali Khodja assurait qu'elles y avaient été mises il y avait 7 ans, à quoi ils firent la même réponse que les enfants fins marchands experts, comme nous l'avons vu. Ici, quoique le marchand accusé vit bien que les deux marchands experts venaient de prononcer sa condamnation, il ne laissa pas néanmoins de vouloir alléguer quelque chose pour se justifier. Mais l'enfant se garda bien de l'envoyer prendre. Il regarda le calife. Commandeur des croyants, dit-il, ceci n'est pas un jeu. C'est à votre majesté de condamner à mort sérieusement, et non pas à moi, qui ne le fis hier que pour rire. Le calife, instruit pleinement de la mauvaise foi du marchand, l'abandonna au ministre de la justice pour le faire pendre. Ce qui fut exécuté, après qu'il eut déclaré où il avait caché les 1000 pièces d'or, qui furent rendues à Ali Khodja. Ce monarque, enfin, plein de justice et d'équité, après avoir averti le cadi qui avait rendu le premier jugement, lequel était présent, d'apprendre d'un enfant à être plus exact dans sa fonction, embrassa l'enfant et le renvoya avec une bourse de 100 pièces d'or qu'il lui fit donner pour marque de sa libéralité.